Bonjour, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Troisième émission de Qui suis-je avec deux billets d'humeur, aujourd'hui et mercredi prochain, que je dédie à une de mes voisines. Il y a quelques semaines, en effet, dans mon quartier, à quelques pas de chez moi, juste devant les fenêtres de mes enfants, qui sont d'ailleurs les plus beaux et les plus intelligents du monde, hein, évidemment, je me suis fait un peu agresser par une femme, une voisine. Elle a été capable de me dire qu'elle était, en quelques secondes, communiste, qu'elle détestait Israël, qualifiant Israël d'État raciste et disant ouvertement qu'Israël n'avait pas de légitimité juridique. Elle a démarré son flot de bêtises quand je prononça le mot « Israël », prononcé au détour d'une conversation. Sa réaction a été vraiment épidermique. Et pour couronner le tout, cette voisine est, tenez-vous bien, fonctionnaire européen. Sa violence m'a laissé quoi ? Je n'ai pas été capable de lui répondre sur le coup et je pense que ce soir-là, j'ai failli. J'ai pas très bien dormi ensuite et j'en suis venu à la conclusion assez rapide qu'il fallait quand même que je lui réponde. Donc, c'est ce que je vais faire avec ces deux émissions. Madame la voisine, vous êtes donc communiste et antisémite à mon sens. Cette première émission qui vous est dédiée sera consacrée au communisme et la suivante à votre antisémitisme. Cette troisième émission, je l'ai intitulée « Être communiste, c'est insulter l'histoire et l'avenir ». Je reçois avec grand plaisir Youssef Semlali, à qui j'ai demandé de venir ici pour deux raisons. Bonjour, bonsoir, Youssef.
Bonsoir à toi. Bonsoir à toi.
Mon billet d'humeur porte donc sur le communisme et tu es à la fois français et tchèque. Tu as vécu à Prague jusqu'à la chute du mur de Berlin. Tu as donc connu le socialisme, le communisme, les magasins vides, l'économie centralisée, la privation de liberté. Ton vécu parlera plus probablement que mon billet d'humeur. Je t'ai aussi invité parce que tu es professeur d'économie et que je sais que tu as une réflexion critique sur l'économie de notre pays. Je t'interrogerai donc sur ton vécu à Prague, sur ta vision du communisme français, aussi un petit peu. Et pour finir, je te demanderai, peut-être, si on a le temps, ton avis sur Jeanne, la maire de Strasbourg, qui est entourée de membres communistes. Mais dans cette émission, il y a des rites. Je passe toujours en milieu d'émission une chanson d'amour pour cultiver mon côté romantique. Je tutoie aussi toujours mon invité. Non pas par manque de respect, non pas parce que je le connais spécialement, non pas par intimité. Je le tutoie pour créer, en fait, tout simplement, essayer de créer une proximité naturelle, pour espérer qu'après le deuxième tutoiement, il se considérera un petit peu comme un pote sincère, et qu'il dira peut-être un peu plus de choses que si je le vous voyais. Un autre rite consiste à demander à mon invité de conclure l'émission par un doigt d'honneur adressé à qui tu veux, à qui il veut. Prépare-toi déjà pour cette dernière question. Mais le premier de ces rites, je demande à mon invité de démarrer l'émission en prononçant le titre de l'émission, « Qui suis-je ?» et de se présenter. Youssef, c'est à toi.
Oui, « Qui suis-je ?» très beau titre
Merci.
pour ton émission. Alors oui, qui suis-je ? Alors rapidement, parce que évidemment, c'est se délecter sur sa propre personne n'a jamais été ma tasse de thé. Mm-hmm. Mais oui, alors comme l'a très bien dit Daniel, donc je m'appelle Youssef Semlali, je suis né à Prague, en Tchécoslovaquie, de père d'origine marocaine et de mère d'origine bulgaro-tchèque. Mes parents ont fait leurs études en Tchécoslovaquie. Ils sont arrivés jeunes, 18-19 ans. Ils sont arrivés avec des bourses d'études à Prague. Et c'est là où ils se sont connus. Et c'est là où je suis né. Et bon, par la suite, notre vie a un petit peu évolué. On est parti au Maroc vivre un petit peu, un an, deux ans. Après, on est parti en Libye. Moi, j'ai vécu tout seul avec ma tante et ma grand-mère à Sofia durant quatre ans. Et en 82, mon père, qui était journaliste, il travaillait à Radio Prague International. Donc il a décidé de revenir en Tchécoslovaquie. Et c'est à partir de 82 jusqu'en 93 que j'ai vécu en Tchécoslovaquie.
Parle-moi un peu de ton métier, peut-être.
Alors je suis, j'ai fait des études de sociologie, j'ai fait un master de sociologie. Je suis aujourd'hui enseignant d'économie et depuis à peu près une douzaine d'années ici à Strasbourg. Donc j'ai des étudiants essentiellement des BTS, mais aussi des futurs experts comptables. Dans mon cursus, j'ai fait aussi la fac d'économie.
D'accord.
Et donc voilà, j'enseigne l'économie.
Ça marche. Alors on va démarrer, merci beaucoup à toi, on va démarrer l'émission et mon billet d'humeur. Je vais donc essayer de répondre à ma voisine avec des arguments factuels et d'autres de cœur. D'abord, je ne supporte pas l'hypocrisie. Madame la voisine, vous êtes fonctionnaire européen. Vous gagnez entre 4 000 et 5 000 euros par mois et finirez à 7 000 euros à votre retraite. Et vous êtes communiste. Vous le clamez haut et fort, alors qu'à mon sens, il y a là une incompatibilité. Comment peut-on travailler dans une institution européenne qui a été un refuge pour tous les anciens pays d'Europe centrale qui voulaient s'affranchir du communisme ? Travailler pour une institution qui s'est toujours battue contre le communisme est un non-sens. Être communiste et gagner plus que le SMIG, un petit peu pour rigoler, n'a pas plus de sens non plus. N'aspirez-vous pas à être pauvre, à supprimer les riches? Sachez, chère voisine, que gagner votre salaire à votre âge, être propriétaire d'un bel appartement dans un des plus beaux quartiers, et votre mari aussi, vous classe parmi les riches. Les petits riches peut-être, les petits petits riches, mais les riches quand même. À mon avis, c'est un peu une honte pour les communistes. Non, vous pouvez vivre avec cela? Mais vos camarades savent-ils que vous avez un tel niveau de revenu? Attention peut-être à ne pas avoir demain des soucis avec leur haine des riches. Vous vivez un petit peu dangereusement. Mais au fait, vous êtes fonctionnaire européen, mais alors vous ne payez pas d'impôts. Mais alors là, c'est encore bien plus grave. Comment peut-on être communiste et ne pas payer d'impôts, ne pas redistribuer? C'est une véritable hérésie, c'est une honte. Une communiste qui ne redistribue pas à travers ses impôts ne peut pas résoudre le problème du prolétariat. C'est tout simplement incompatible. Pour moi, vous êtes quasiment une sociale traître. Il faudrait vraiment, je pense, vous dénoncer à la Stasi locale, au bureau politique. Allez travailler, je suggère, dans l'un des derniers pays communistes sur la planète. Allez travailler en Corée du Nord, allez au Venezuela. Vous y serez heureuse, vous baignerez dans l'allégresse idéologique et vous pourrez étudier les livres qui sont autorisés. Bien entendu, j'entends déjà vos arguments fallacieux, qui vont dire que le communisme n'a jamais vraiment été expérimenté. Cet argument me rend fou. Il faut être aveugle, sourd et d'une mauvaise foi totale pour ne pas voir les ravages de cette idéologie mortifère. Si le communisme est basé peut-être sur des idéaux magnifiques, théoriques, ils sont pour moi le fruit d'une masturbation intellectuelle faite par des intellectuels pour des intellectuels. Et ils ne tiennent pas compte ni de la nature humaine, ni des phobies de ceux qui y croient. Youssef, tu as vécu le communisme pendant 20 ans. Tu étais jeune à l'époque, tu étais beau et jeune à l'époque.
Oh, je le suis encore.
Mais oui, mais je confirme. Aujourd'hui, tu as deux enfants qui sont eux aussi absolument magnifiques. Et peux-tu comprendre aujourd'hui qu'on puisse être encore communiste et construire une société d'avenir pour nos enfants?
Alors, je vais te le dire directement et d'une façon très sincère, non. Non, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible.
Ouais.
Vu l'histoire de ce parti qui a causé des millions de morts, ça il faut le dire, ça on le sait, c'est factuel, qui a causé, qui a été à l'origine de beaucoup de détresse et de malheur. Donc non, moi personnellement, je ne comprends pas.
Et pour des raisons économiques, est-ce que tu penses qu'il y a possibilité de créer un système communiste qui permet aux gens de vivre aussi bien que dans la société dans laquelle nous vivons ?
Alors sûrement les auditeurs le savent, le communisme c'est une définition toute simple, le communisme il s'agit donc d'une organisation de la société sans propriété privée, sans État, dans une société communiste il n'y a pas d'État. Si on reprend la définition telle qu'elle a été donnée par Marx par exemple, ou par la suite, par Engels, donc il s'agit d'un système social où il n'y a pas de propriété privée. D'accord. Et où il n'y a pas d'État. Et le socialisme est en fait une phase de transitoire qui devrait. Alors évidemment, ceci n'a pas eu lieu.
Et tu penses que on peut être fonctionnaire européen, travailler pour une institution qui prône quand même des valeurs justement de libéralisme, de démocratie? Et être communiste, travailler pour une institution, il n'y a pas là pour toi une incongruité pour le moins ?
Ouais, écoute, quelqu'un qui vote le Parti communiste, bon, ça fait partie des droits fondamentaux des citoyens. En ce qui me concerne, moi de toute façon, fonctionnaire européen ou fonctionnaire quelconque ou citoyen quelconque, et s'afficher en tant que communiste, pour moi c'est une aberration. Pour moi, c'est une aberration et c'est tout simplement ignorer l'histoire de la tradition politique dans laquelle on s'affiche. Je trouve ça et ça fait très mal. Ça fait très mal parce que beaucoup de gens ont souffert. Moi, mon arrière-grand-père, il a été assassiné en Bulgarie en 45 par les communistes, mais pas seulement lui. Ce qu'on appelait les procès populaires en 45 en Bulgarie, il y a eu plus de 30 000 personnes, 30 000 personnes qui ont été sèchement assassinées, et puis sans compter la suite.
Bien sûr. Alors, je vais continuer, merci. Mon argumentaire pour démonter ce système politique est basé sur deux axes. D'abord, je pense que la nature humaine est tout simplement inconciliable avec cette idéologie. Et ensuite, j'ai constaté, depuis que j'ai entendu ce mot de communisme, que la fondation même de cette idéologie, c'est la haine de l'autre. Commençons par la nature humaine. Peut-on faire contre elle ? Aucun humain ne veut être égal à l'autre. Aucun ne veut se voir imposer par l'État un travail et une condition au nom d'un idéal égalitaire. L'homme aspire à la liberté et le capitalisme permet de vivre cette liberté. Chacun joue sa carte et gagne en fonction de ses choix, de ses compétences. Et une fois que la personne s'est réalisée, dans son unicité, sa singularité, alors elle doit redistribuer ses richesses à travers la TVA, l'impôt sur le revenu. Vous savez, cet impôt sur le revenu, madame, que vous ne payez pas. Le capitalisme est un système de flux d'argent qui part de l'individu, va vers l'État, puis retourne vers l'individu à travers les écoles, les retraites, la santé, les routes. C'est aussi un système intelligent qui crée de la valeur. Un euro investi permet de générer des millions d'euros redistribués. C'est un sujet qui d'ailleurs me passionne, un sujet économique qui me passionne, le capitalisme. Et j'écrirai un jour un post sur mon Facebook, il ferait probablement une émission. J'ai déjà le titre, elle s'appellera « La plaquette de beurre ». Je m'expliquerai plus tard. Le communisme, lui, contrairement au capitalisme, part de l'État qui ne produit rien, écrase l'individu et ne peut pas créer de valeur puisque l'individu travaille pour l'État, donc pour personne et surtout pas pour lui et encore moins pour ses enfants. La propriété est abolie, confisquée, comme tu l'as dit, au profit de la classe ouvrière qui elle-même, en fait, aspire à ne plus l'être. Le capitalisme est lié intimement à la liberté de l'individu. Ainsi, ce formidable moteur de liberté a permis au monde d'absorber une croissance démographique unique dans l'histoire humaine grâce à une internationalisation des échanges. Le meilleur exemple, tout récent, c'est le vaccin contre le Covid qui a été trouvé en une année. Sans lui, 10, 15, 20% de la population aurait été décimée. Or, c'est le capitalisme et sa création de valeur qui a permis de créer toutes les richesses pour financer les progrès considérable pour financer l'industrie pharmaceutique, les médecins, les chercheurs et ensuite évidemment pour financer les milliards et les milliards de doses qui sont actuellement distribuées. Évidemment qu'avec un système communiste, il eût été impossible de créer cette valeur pour permettre de mobiliser l'ensemble des forces vives pour trouver les solutions à cette épidémie. Je pense qu'il ne faut jamais oublier l'état de délabrement de l'URSS, de la Pologne, de la RDA, de la Tchécoslovaquie, fin des années 80. Les États et les citoyens étaient exsangues. L'effondrement du bloc communiste s'explique parce que l'os était rongé jusqu'à la moelle. Les chiens n'avaient plus rien, plus rien. Derrière le mur, le capitalisme flamboyant devenait insupportable et ouvrait ses bras. Ainsi, je pense vraiment que le communisme ne respecte en rien la nature humaine. Youssef, je voudrais que tu me donnes un tout petit peu ton point de vue sur la nature humaine. Peut-elle accepter, d'après toi, que nous soyons tous égalitaires et que l'État nous dicte notre existence ?
Alors, bon, discuter sur la nature humaine, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse un petit peu. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il existe de système politique ou économique ou de système social parfait. Hein, ça n'existe pas. Le capitalisme a évidemment ses points forts et ses points négatifs, hein, comme le chômage, comme la pauvreté, etc. Est-ce que la nature humaine est compatible avec le communisme, la nature humaine, je ne sais pas, mais ce que je sais par contre, c'est que les hommes et les femmes qui ont vécu uh-huh. durant cette période, eh bien, n'avaient pas vraiment la vie facile. Hein, il faut pas non plus généraliser. Hein, ça veut dire que une certaine partie de la société tchécoslovaque, par exemple, durant la période, disons de centralisme étatique, parce que bon, on parle de communisme, mais en fait c'était pas vraiment un système communiste. Une certaine partie donc de la société vivait très très bien. Mmh. Hein, ceux qui étaient membres du parti communiste,
évidemment,
hein, ils avaient un niveau de vie très agréable. Ils pouvaient voyager, ils pouvaient avoir accès à un certain nombre de biens, hein, comme une voiture, s'acheter une voiture, etc. Alors que la majorité, non. Mmh. Donc ça c'est un fait.
Mais hein. La majorité, par exemple, avait des problèmes pour se loger, pour se nourrir, pour accéder à la culture, à l'enseignement.
Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, par exemple, il fallait être membre de la jeunesse communiste.
Ah oui, obligatoirement.
Ah bah oui, donc obligatoirement, il fallait être membre de la jeunesse communiste et puis être sympathisant au moins. Mmh. On était oui.
Ouais. Et je crois que tes parents ont eu des privations de liberté parce que justement ton grand-père ayant été assassiné.
Mon arrière-grand-père.
Ton arrière-grand-père ayant été assassiné, ta famille était fichée, d'après ce que tu m'as dit.
Oui, on était fichés. Mon arrière-grand-père, donc, il a été tout simplement assassiné, il a été fusillé. Et par la suite. Ma grand-mère avec sa mère et son frère, donc ils ont été déportés. Ils ont été déportés. Ils étaient obligés de vivre à la campagne. Mmh. Hein, ils n'avaient donc pas accès à l'enseignement supérieur et ils devaient être rééduqués.
Évidemment.
Hein, la bourgeoisie se doit d'être, se devait être. On devait la rééduquer. Hein. En leur imposant des emplois ouvriers pour qu'ils puissent prendre conscience hein, du déterminisme de classe durant plusieurs années en fait jusqu'à l'arrivée de Khrushchev hein, mmh. avec Khrushchev les choses se sont un petit peu calmées ils ont donc jusqu'à l'arrivée jusqu'au disons début des années 60 eh bien ils étaient obligés de d'aller tous les jours à la police par exemple pour signer des papiers.
Est-ce que tu mesures entre ta vie de jeune à Prague
oui.
et la vie de tes enfants aujourd'hui à Strasbourg, est-ce que tu mesures d'un côté le système communiste oui. et de l'autre le système capitaliste en fait là tu as deux vécus à travers deux générations.
C'est un petit peu compliqué quand on parle des enfants hein, puisque moi je peux pas dire que j'ai eu une jeunesse ou une enfance plutôt, une enfance triste et macabre. Hein. Il ne faut pas s'imaginer ça. La conscience du pays dans lequel on vit, la situation sociale et politique, on l'acquiert quand même beaucoup plus tard.
Oui.
C'est que vers l'âge de 13, 14 ans qu'on commence un petit peu à comprendre les choses. On commence à comprendre que, par exemple, on n'avait pas le droit d'écouter telle ou telle musique. Mmh. Moi, j'aimais bien, par exemple, le heavy metal. Mmh. Bon, le heavy metal, c'était interdit. Mmh. Toute la musique occidentale, on n'y avait pas accès. Mmh. La littérature occidentale non plus. Pour ce qui est des films, certains films... La littérature, mmh. Alors attention, la littérature occidentale, pas dans sa totalité, mais tout était filtré. Il y avait la censure du parti qui était là.
Je te remercie. On va faire une petite pause musicale avec une chanson d'amour. Alors, c'est vraiment une très, très, très belle chanson. C'est de Christophe, qui est malheureusement décédé, qui est un personnage extraordinaire. Je ne suis pas forcément d'accord avec les paroles de cette chanson, mais je vous invite vraiment à l'écouter. Elle est magnifique. Les mots bleus.
Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. D'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent souffle en avril, j'aime le silence immobile d'une rencontre.
Merci Lucas pour cette pause musicale. On va continuer sur mon billet d'humeur. Après la nature humaine, je voudrais parler de la phobie collective qui a été érigée en programme idéologique. À force d'écouter les discours de l'extrême gauche depuis 40 ans, dont les derniers de Mélenchon d'ailleurs, j'ai toujours été frappé par leur contenu haineux et leur jalousie. Chaque mot comporte une haine des riches, des aristocrates, des bourgeois, de la classe moyenne, ou alors aussi des dirigeants d'entreprise aujourd'hui. Une haine nourrie par leur jalousie. Cette haine constitue les fondations de leur idéologie. Et c'est parce que cette haine irrigue tout leur comportement, leur pensée, que le communisme est tout simplement une catastrophe humaine. Leur incompétence dans presque tous les domaines, et surtout dans le domaine économique, les obligeait à occuper les peuples par des discours haineux pour mieux cacher leur incompétence. Il n'existe pas un seul discours de politique d'extrême gauche qui n'attaque pas l'adversaire. Je n'en ai jamais entendu. Cette phobie collective a trouvé son apogée dans une expérience récente époustouflante. Elle m'a, moi, personnellement beaucoup marqué, je l'ai assez étudié, c'est la Stasi en RDA, où absolument tous les citoyens étaient soupçonnés, espionnés, fichés, dénoncés. Les libertés publiques étaient bannies au nom de la défense de la classe ouvrière. Tout le monde espionnait tout le monde avait peur de tout le monde. Le communisme, c'est la peur de l'autre. Youssef, toi qui as vécu pendant 20 ans à Prague, as-tu connu cette peur? As-tu connu, toi ou tes parents, cette peur de l'autre, peur du voisin?
Oui, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelait en fait l'ennemi de l'intérieur.
Oui.
L'ennemi de l'intérieur était même plus dangereux, était plus dangereux que l'ennemi de l'extérieur, l'ennemi de l'extérieur qu'on pouvait identifier. Hein, ça veut dire les États-Unis, les pays impérialistes, capitalistes, etc. Mais le gros problème pour ces régimes, c'était réellement ce qu'on appelait l'ennemi de l'intérieur, qu'on avait du mal à identifier.
Évidemment.
Eh oui. Et c'est pour ça, comme tu l'as très bien rappelé, en RDA, donc il y avait cette Stasi, et en Tchécoslovaquie, on appelait ça la STBS, Státní bezpečnost, donc qui veut dire en fait la sécurité d'État intérieur. Et tout le monde était fiché, tout le monde était contrôlé. Hein. Avoir, par exemple, accès à un téléphone fixe, c'était très compliqué. Ah. Et oui, téléphone fixe, c'était un privilège pour certains, évidemment. Tout était contrôlé pour ceux qui... Donc, pour les programmes scolaires étaient dictés, étaient définis par le Parti communiste.
Et une des populations qui a le plus... résister à ça, à tout ça, ce sont les étudiants.
Oui, ce sont les étudiants. C'est, il faut bien, bon, les gens s'en rappellent peut-être, mais le mouvement qui s'est enclenché à la fin des années 80, donc en novembre 89, à la révolution de velours, c'était une révolution étudiante. C'était une révolution étudiante. C'était pas, entre guillemets, les vieux. Hein. C'était encore une fois, hein, on doit tirer chapeau. On doit dire bravo à la jeunesse et aux étudiants d'avoir bien engendré un tel mouvement.
Merci Youssef. Je veux aussi dire, avant de terminer l'émission, que parler du communisme, on ne peut pas parler du communisme sans parler d'histoire et des grands dirigeants communistes. Ces grands dirigeants s'appelaient Lénine, Trotsky, inventeur du KGB, Staline, Mao, Le Che, Pol Pot. Prononcer leur nom devrait être interdit. Ils me donnent mal au ventre. Ils ont tous des massacres sur les mains. Tous. Ce sont tous des dictateurs épouvantables. Ils tuaient, déportaient, non pas par conviction, mais par folie. Uniquement par folie. Leur haine était sans fin. Et bien sûr, avec tous ces leaders communistes, madame, ma chère voisine, comment pouvez-vous être encore communiste? C'est vraiment pour moi tout à fait incompréhensible. J'ai une suggestion à vous faire, madame, un petit peu violente. Les chauffards de la route, lorsqu'ils commettent des accidents graves, on leur fait voir des vidéos d'accidents horribles, avec des morts, des blessés graves. On devrait faire la même chose avec vous. On devrait vous montrer des vidéos de massacres des Khmers rouges. Ça vous ferait peut-être un petit peu réfléchir. Je vais terminer cette émission. En concluant en disant que être communiste en 2021 est pour moi une infamie. C'est une insulte aux millions de morts, de déplacés, de torturés au nom d'une idéologie mortifère. Être communiste est aussi une insulte à l'intelligence. L'histoire récente et surtout la connaissance de cette histoire aurait dû vacciner les gens contre le communisme. Je ne peux pas terminer cette émission, Youssef, sans dire aussi que le communisme a eu des épisodes antisémites absolument épouvantables. Tu peux peut-être nous en dire quelques
mots. Mais c'est une évidence historique. Hein. Je vais sûrement pas... Je vais rien dire de neuf, mais seulement rappeler aux auditeurs hein, ce qu'on appelle les grands procès des années 50 en Tchécoslovaquie. Tout le monde connaît l'aveu de d'Arthur Landon. Tous les dirigeants, les grands dirigeants du Parti communiste tchécoslovaque, qui étaient majoritairement des juifs, à commencer par le secrétaire général Slansky. Eh bien, tous ces gens-là, une vingtaine de personnes, ont été tout simplement exterminés. Alors, s'il s'agissait d'un antisémitisme camouflé, évidemment, on va pas officiellement s'afficher en tant qu'antisémite, mais oui, ça fait aussi partie de l'histoire de ce parti.
Merci beaucoup. Pour conclure, je dirais, puisque nous sommes à la veille de votes importants, l'extrême droite française et l'extrême gauche française sont les héritières de ces deux idéologies. Et je n'ai pas besoin d'avoir fait des études pour sentir au plus profond de moi que de voter communiste, être communiste, est un crime au nom de l'histoire et au nom de l'avenir.
Et s'afficher avec les communistes.
Aussi. Merci beaucoup Youssef, et à la semaine prochaine pour le deuxième épisode.
Merci à vous. Merci. Bonne journée.
Merci.